Sire, la charte que nous devons à votre auguste prédécesseur et dont votre majesté a la ferme volonté de consolider le bienfait, consacre comme un droit l'intervention du pays dans la délibération des intérêts publics. Sire, notre loyauté, notre dévouement nous condamnent à vous dire que ce concours n'existe pas. Pierre Royer-Collard, président de la Chambre des députés, adresse en réponse au discours du trône le 18 mars 1830.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Depuis 1815 et l'échec définitif de Napoléon à Waterloo, la France vit sous le régime de la Restauration. En mai 1814 déjà, le comte de Provence, un des frères de Louis XVI, devenu Louis XVIII aux yeux des monarchistes à la mort du dauphin en 1795, il revient en France après 23 ans d'exil. Il retrouve un pays profondément transformé et dont il a compris les transformations. Il octroie, le 4 juin 1814, une charte constitutionnelle qui prévoit, certes, un pouvoir royal important, mais qui prévoit également l'existence des chambres des députés et des pairs, qui sont chargés de voter le budget et les lois proposées par le gouvernement royal. Officiellement, la charte ne prévoit pas de parlementarisme, c'est-à-dire une responsabilité du gouvernement devant les députés de la nation. Mais en fait, depuis 1816, l'habitude avait été prise de faire coïncider des majorités parlementaires avec le gouvernement. Ainsi, les modérés constitutionnels, qui avaient gagné les élections de 1816, ont gouverné jusqu'en 1820. Puis, les ultras les ont remplacés à partir de 1820, consolidés par les élections de novembre 1820, de mars 1823 et de février 1824. Ainsi, le président du Conseil pouvait s'appuyer sur une majorité correspondant aux vœux d'un corps électoral d'environ 110 000 personnes. Le roi Louis XVIII, que la maladie va progressivement affaiblir, était attaché finalement à ce système qui le laissait au-dessus de la mêlée, qui lui permettait d'être un arbitre des affaires publiques et finalement d'avoir une vieillesse tranquille. La France prenait l'habitude d'une monarchie constitutionnelle. Le 16 septembre 1824, rongé par une maladie liée à son diabète et à la goutte, Louis XVIII meurt. Son frère Charles X, comte d'Artois, qui était le chef officieux des ultra-royalistes, monte sur le trône. Le roi présente bien à 67 ans. À la différence de son frère, il est longiligne, monte à cheval, et d'une extrême courtoisie, y compris avec des adversaires politiques. Bref, il donne une image rénovée de la personne royale par rapport à Louis XVIII. Par contre, politiquement, il est très attaché à la tradition. Il estime que le roi doit participer activement aux affaires de l'État et ne doit pas se contenter d'être une sorte de roi d'Angleterre. De plus, il va renouveler la tradition du sacre à Reims le 29 mai 1825. Pour la dernière fois de son histoire, la vieille cathédrale retrouve le faste de la monarchie d'antan. Le sacre a été contesté par les libéraux qui estimait que c'était une opération politique rappelant trop l'ancien régime. D'autant plus que le roi avait pratiqué le toucher des malades, comme ses ancêtres pendant des siècles. Par contre, il faut reconnaître que le sacre avait été l'occasion de faire de la charte un texte quasi sacré, puisque le roi avait prêté serment sur la charte pendant le sacre. Au moment de celui-ci, ce sont donc les ultras qui gouvernent le royaume. Le président du conseil est un notable toulousain, Joseph de Villèle, qui est arrivé au pouvoir à la fin de 1821. La majorité ultra a adopté quelques lois qui ont fait polémique. En 1825, cette majorité adopte la loi du milliard des émigrés, qui consiste à rembourser les personnes qui avaient quitté la France à l'époque de la Révolution. En fait, d'un milliard, il s'agit de 630 millions de francs. Elle avait adopté également la loi sur le sacrilège, qui prévoyait la peine de mort pour les personnes qui venaient perturber les offices religieux et qui pouvaient briser les tabernacles où se trouvait l'hostie consacrée. Beaucoup d'opposants estimaient que cette loi était extrême. Fallait-il vraiment envisager la peine de mort ? Certes, elle ne fut jamais appliquée, parce qu'elle prévoyait que la personne qui venait briser le tabernacle le fasse en public, ce qui était rarement le cas, mais elle avait heurté les sensibilités anticléricales et libérales d'une partie de la société française. Aux élections de novembre 1827, Villèle connaît un échec. Les ultras n'ont plus la majorité absolue à la Chambre des députés. Au demeurant, il n'y a pas de majorité claire qui sorte de ces élections de 1827, mais indéniablement, c'est plutôt les modérés qui l'emportent. Or, Charles X accepte de jouer la règle de la majorité de la Chambre des députés. Il va nommer, le 5 janvier 1828, un député bordelais, Martignac, monarchiste modéré, en tout cas suffisamment modéré pour ne pas inquiéter Charles X et pour diriger le gouvernement royal. Mais Charles X s'impatiente assez vite. Il voudrait avoir un gouvernement selon son cœur, c'est son expression même. Bref, il voudrait revenir à un gouvernement ultra. Aussi, en plein été 1829, Charles X remplace Martignac par le prince de Polignac le 6 août 1829. Le prince de Polignac est le fils d'une des favorites de Marie-Antoinette. Il s'entoure de ministres qui consacrent une image très fermée de la Restauration. On y retrouve le général de Bourmont à la guerre, or celui-ci avait trahi Napoléon en 1814. On y retrouve également le comte de la Bourdonnais, qui, en 1814, demandait pour les régicides des fers et des supplices. Sa nomination à l'intérieur paraît de mauvais augure. Bref, en cet été 1829, Charles X nomme un gouvernement qui n'a pas de majorité parlementaire et qui se heurte à une majorité modérée et, comme l'a exprimé le président de la Chambre des députés, Royer-Collard, ce gouvernement n'a plus la confiance de la majorité. Le 19 mars 1830, à la suite du discours du trône, puis de l'adresse, votée par 221 députés et qui confirme l'opposition de la majorité de la Chambre au gouvernement royal, Charles X prend une première décision. Il suspend la Chambre jusqu'au 1er septembre. Puis, le 16 mai 1830, il annonce la dissolution de la Chambre. Le roi engage donc un bras de fer avec l'opinion et avec la majorité de la Chambre. Celle-ci n'était pas défavorable au régime, mais souhaitait tout simplement que le roi accepte le système parlementaire. Les élections ont lieu au début du mois de juillet. Or, ces élections sont indéniablement un échec majeur pour les ultras. 145 députés ultras sont élus, mais 274 députés modérés et libéraux sont envoyés à la Chambre des députés. L'affaire aurait pu en rester là. Charles X aurait pu nommer un président du Conseil à l'image de cette majorité. Or, Charles X ne veut pas céder. Il ne cesse de répéter qu'en 1789, c'est la faiblesse de son malheureux frère Louis XVI qui a provoqué la Révolution. Donc, il décide d'essayer de forcer les événements. Le 26 juillet 1830, Charles X signe 4 ordonnances. Ces ordonnances provoquent une nouvelle dissolution de la Chambre, la suppression de la liberté de presse, la modification du système électoral qui est modifié en faveur de l'électorat ultra et la convocation des collèges électoraux pour le mois de septembre. Des affiches annoncent à Paris les décisions royales. Dès le 26 juillet au soir, des manifestations se font entendre dans la capitale. Mais le lendemain, 27 juillet 1830, le tribunal de commerce de Paris déclare les ordonnances royales contraires à la charte constitutionnelle. Plus grave, la garde nationale, qui avait été licenciée, reprend les armes et passe du côté des manifestants qui commencent à dresser des barricades dans les rues étroites de la capitale. Bref, les manifestations de mécontentement se multiplient. Les troupes royales sont assaillies dans les petites rues. Elles sont mal ravitaillées. Il fait chaud et souffrent de la soif. Le gouvernement perd le contrôle de la situation dans la capitale. Le 28 juillet, les Tuileries sont mises à sac. L'agitation commence à gagner la province. Charles X ne se trouve pas à Paris. Il s'était réfugié à Saint-Cloud. Puis, il part pour Versailles le 31 juillet 1830. Mais l'hostilité de la population le contraint à gagner Rambouillet et à abandonner définitivement la capitale, les troupes royales ayant reçu l'ordre de se retirer. Dès lors, le régime est en danger. Les députés offrent la lieutenance générale du royaume au duc d'Orléans, Louis-Philippe, qui l'accepte et qui rétablit la cocarde tricolore abandonnée en 1815. Il se rend à l'hôtel de ville où Lafayette l'enveloppe dans un drapeau tricolore. Le vieux souverain décide, le 2 août 1830, d'abdiquer au profit de son petit-fils, Henri, duc de Bordeaux. Il quitte Rambouillet et se dirige dans un long cortège funèbre de la monarchie vers Cherbourg afin de gagner l'Angleterre. Le 9 août, le duc d'Orléans prête serment à la charte et devient roi des Français sous le nom de Louis-Philippe Ier. C'est Chateaubriand, sans doute, qui a trouvé les mots pour signifier ce que fut la fin de cette monarchie et avec laquelle, finalement, il avait lui-même eu des rapports complexes. Le 7 août, il refuse de se rallier au nouveau régime et devant la Chambre des Pairs, il fait un de ses plus beaux discours. « Inutile Cassandre, j'ai assez fatigué le trône et la patrie de mes avertissements dédaignés. Il ne me reste qu'à m'asseoir sur les débris d'un naufrage que j'ai tant de fois prédit. Je reconnais au malheur toutes les sortes de puissances, excepté celle de me délier de mes serments de fidélité. Je dois aussi rendre ma vie uniforme. Après tout ce que j'ai fait, dit et écrit pour les Bourbons, je serai le dernier des misérables si je les reniais au moment où, pour la troisième et dernière fois, ils s'acheminent vers l'exil. »